Dear brethren and sisters,
mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette réunion mondiale de formation des dirigeants. Je suis Dallin H. Oaks et l'on m'a demandé de diriger cette formation. Nous saluons la présence de Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, qui préside cette réunion et qui sera notre dernier orateur. Sont également présents Boyd K. Packer, président du Collège des Douze Apôtres, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, M. Russell Ballard, D. Todd Christofferson et Neil L. Andersen, membres du Collège des Douze Apôtres, Ronald A. Rasband, de la présidence des 70, Hélène S. Dalton, présidente générale des Jeunes Filles, et Rosemary M. Wixom, présidente générale de la primaire, prendront également la parole. En ouverture, nous chanterons le cantique numéro 162, Le monde a besoin d'ouvriers, dirigé par Sœur Vania Watkins, accompagné par Frère Herbert Klopfer à l'orgue. La prière d'ouverture sera faite par Ryan Gardner, qui sert actuellement dans un épiscopat dans le pieu de Heber City en Utah.
Father in heaven, we are so
Nous sommes reconnaissants de l'occasion que nous avons d'être assemblés afin d'être instruits par des prophètes, voyants et révélateurs. Nous sommes reconnaissants de vivre à cette époque du rétablissement de l'Évangile dans laquelle nous pouvons, en tant que membres de l'Église, recevoir ta direction divine. Nous sommes reconnaissants de ceux qui vont nous enseigner et nous conseiller, et nous te prions de les bénir afin que ton esprit soit avec eux et que ce même esprit soit avec nous alors que nous écouterons, afin que nos cœurs et notre pensée soient prêts à recevoir ta volonté pour que nous puissions aller de l'avant et faire ton œuvre avec une plus grande inspiration et plus d'amour pour les personnes que nous servons. Nous t'exprimons encore notre amour pour notre Sauveur, Jésus-Christ, et pour ce qu'il a fait pour nous et pour son expiation. Nous te prions de nous bénir pour que nous nous souvenions toujours de lui et de son exemple, alors que nous servons, afin de nous efforcer de modeler notre service sur le sien. Nous te consacrons maintenant cette réunion et te prions encore pour que nous soyons ouverts à l'inspiration que tu nous accorderas. Et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette diffusion de la Réunion mondiale de formation des dirigeants s'adresse aux dirigeants d'auxiliaires de pieux et de paroisses, y compris ceux des districts à travers le monde. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur deux sujets majeurs. Premièrement, divers orateurs parleront de ce que nous cherchons à faire dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et les raisons de cela. Deuxièmement, nous aurons une table ronde à propos de la manière d'atteindre nos objectifs. L. Tom Perry et D. Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres seront nos premiers orateurs. Ils parleront de la manière dont l'Évangile rétabli de Jésus-Christ apporte les réponses à tous les problèmes et les défis de la vie, et de la manière dont nous pouvons être plus efficaces en permettant à ces principes de bénir notre vie et la vie d'autrui. Puis Russell M. Nelson et Boyd K. Packer du Collège des Douze Apôtres nous parleront de la doctrine qui nous donne la raison d'être de ce que nous faisons dans l'Église et dans notre vie personnelle, en particulier dans les aspects du mariage, des enfants, de la famille et de l'importance du pouvoir de la prêtrise dans le foyer. Frères Perry et Christofferson.
Nous sommes ravis de pouvoir aborder le sujet du jour, qui est trouver la réponse à nos problèmes et à nos défis en vivant l'Évangile de Jésus-Christ. Par le passé, les présidents de l'Église nous ont donné le grand espoir de pouvoir trouver les réponses à ces difficultés et à ces défis dans l'Évangile. Voici deux citations auxquelles nous pourrions réfléchir aujourd'hui. La première est tirée d'un discours du président Kimball donné lors de la conférence générale d'avril 1980. Il a dit « Puissions-nous tous nous souvenir que si nous vivons l'Évangile et suivons les conseils des dirigeants de l'Église, nous serons bénis et éviterons beaucoup des problèmes qui affligent le monde. Le Seigneur connaît les difficultés que nous rencontrons. Si nous respectons ses commandements, nous aurons droit à recevoir la sagesse et les bénédictions des cieux pour les résoudre. Mes frères et sœurs, je sais que l'Évangile est vrai. Il répond à toutes les questions de la vie et à tous les problèmes que nous rencontrons. Maintenant, une citation du président Benson s'adressant aux missionnaires. Je vous témoigne que nous avons les réponses aux problèmes du monde. Nous savons où nous allons. Nous avançons et le Seigneur dirige son œuvre par l'intermédiaire d'un prophète de Dieu et de témoins spéciaux qui attestent de la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le Dieu de ce monde, sous la direction du Père. Nous ne pouvons échouer dans cette œuvre. Avec l'assurance des prophètes de Dieu, il est clair que la route est bien tracée pour que nous puissions mettre en pratique l'Évangile de Jésus-Christ dans notre vie. Frère Christofferson et moi avons décidé de faire notre exposé sous forme de questions-réponses et en utilisant trois questions pour mettre en pratique l'Évangile à travers le service, le sauvetage et le respect des alliances. Bien sûr, je poserai les questions et frère Christofferson y répondra. Ce seront de brèves réponses dans l'espoir que vous irez plus loin et rechercherez plus de connaissances et de compréhension sur ces sujets. Premièrement, le service. Nous appliquons l'Évangile en servant notre semblable, comme le Sauveur l'a fait au cours de son ministère terrestre. Tout d'abord, nous devons comprendre où le monde nous place et qui nous sommes. Voici donc la première question. Les Mormons sont-ils chrétiens ?
Oui. Vous avez dit que les réponses aux défis et aux problèmes de l'existence viennent de l'Évangile et de sa mise en pratique, ce qui signifie suivre les enseignements et les commandements et l'exemple du Christ. Et je pense que c'est dans cette conduite chrétienne et à travers le service que nous présentons notre argument le meilleur et le plus persuasif à propos de notre propre christianisme. Je sais que certains affirment que nous ne rentrons pas dans le cadre de leur définition particulière du christianisme orthodoxe, qu'il en soit ainsi. Mais notre exemple doit être tel que personne ne puisse nier que les saints des derniers jours aiment le Sauveur. Personne ne peut nier que les saints des derniers jours s'efforcent d'imiter le Sauveur. Et je pense que c'est ainsi que nous le manifestons, par nos actions, comme a dit le Sauveur, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il se trouve que je vis dans une paroisse formidable, où le service est le cadre et le mode de vie. Un exemple rapide. Amy a 5 enfants et en attend un 6e. Elle a souvent été malade au cours de cette grossesse. Tiffany a probablement plus d'enfants à la maison que quiconque dans la paroisse. Mais Tiffany met un point d'honneur, de temps en temps, à prendre les enfants d'Amy chez elle et à lui donner du temps seul pour qu'elle se repose et puisse récupérer. C'est un simple exemple, mais je pense que si vous le multipliez par des centaines et des milliers de fois, c'est ce qui signifie pour nous être chrétien.
Bon, je pense que je vais vous donner A pour cette réponse. Je vous remercie. Question suivante. Quel est l'effet du service dans notre propre vie ?
Dans le service, on doit toujours se concentrer sur l'extérieur. On pense à ce qu'on peut faire pour aider les autres. Mais en même temps, on ne peut pas nier que cela a un effet sur nous. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'empathie et la compassion qui change notre perspective, qui nous donne de la force et du courage, je pense, pour faire face à nos propres besoins. Cela nous raffine, cela nous sanctifie. Marion Jérôme a dit un jour, « Souvenez-vous que le service n'est pas juste quelque chose que l'on fait pour aller aux cieux, mais que le service est le mode de vie des cieux. Vous savez, c'est le mode de vie de Dieu, c'est ce que nous faisons là-bas. » Bien sûr, le Christ lui-même est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et je pense, je l'ai souligné avant de venir, aux paroles d'Amulek. Au chapitre 34 d'Alma, il dit qu'après avoir prié et après avoir fait toutes les choses qui font partie de notre culte et de notre manière de vivre, car lorsque vous avez fait toutes ces choses, si vous renvoyez les nécessiteux et les nus, et ne visitez pas les malades et les affligés, ne donnez pas de vos biens, si vous en avez, à ceux qui sont dans le besoin, je vous le dis, si vous ne faites rien de cela, voici votre prière est vaine, et vous ne sert de rien, et vous êtes comme des hypocrites qui renient la foi. Je pense que le meilleur service que nous puissions rendre se fait au foyer. C'est là qu'il doit être le plus constant et le plus fréquent.
Bon, essayons une troisième question dans cette section. Il se peut que des personnes d'autres confessions partagent nos valeurs. Existe-t-il des moyens de se joindre à eux dans notre service chrétien ?
Je pense que c'est tout à fait naturel. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tous les points de doctrine pour collaborer et œuvrer ensemble. ma propre expérience m'a prouvé que je deviens une meilleure personne à travers ce type d'association. J'ai pu travailler à de nombreuses occasions dans les divers lieux où j'ai vécu aux États-Unis et en dehors, avec des groupes de personnes d'autres confessions, et dans certains cas, je suppose, des personnes n'appartenant à aucun groupement religieux, mais des personnes de bonne volonté. Et comme je l'ai dit, je pense que cela m'a rendu meilleur. Et l'organisation de l'Église est vraiment axée sur le service en groupe. Nos collèges et nos paroisses et toutes les organisations facilitent réellement cela et nous préparent à aller vers les autres et dans certains cas à nous joindre à eux. Mais nous avons eu beaucoup d'expériences de ce type, comme vous le savez, et pas seulement au niveau local, mais internationalement, à travers le monde entier. Nous sommes liés avec les catholiques, les évangélistes et les musulmans, ainsi que des groupes et des personnes laïques. Comme je l'ai déjà dit, je crois que c'est vraiment une conséquence naturelle de notre service chrétien et du fait de suivre le Christ en vivant l'Évangile.
Bon, très bien, allons maintenant à la section sauvetage. Encore une fois, nous appliquons l'Évangile en allant secourir les gens qui sont dans le besoin, tant spirituellement que temporellement, comme le Sauveur nous l'a montré. Première question. En quoi secourir les gens qui sont dans le besoin est-il au centre de nos croyances ?
Bien, encore une fois, nous parlons de l'Évangile comme source de solution face aux difficultés de la vie et à nos besoins. Et pour moi, la clé de tout cela est le pouvoir rédempteur de Jésus-Christ. Nous nous appuyons sur sa grâce pour surmonter le péché, pour surmonter la souffrance, pour surmonter la mort elle-même. Et je crois qu'une partie de la mise en pratique de l'Évangile dans nos vies consiste à participer à cette œuvre rédemptrice, son œuvre rédemptrice, à ses côtés. Cela signifie le faire individuellement, en tant que parent, en tant que collège, en tant que paroisse, en tant que pieux, quelle que soit la situation. Notre effort vise à racheter les gens, l'aider à racheter les gens qui sont dans le besoin, aussi bien spirituellement que temporellement. Tout cela fait partie du sauvetage. Et en lisant le manuel d'instruction, on peut voir que le magasin épiscopal en est un exemple. Ce magasin épiscopal est constitué de toute la bonne volonté, des talents, du temps, des ressources des membres, tout ce qu'ils sont prêts à donner pour aider à cet effort rédempteur. Donc, nous avons parlé de service. Je pense que c'est le point culminant du service. Et je pense que c'est à juste titre que le président Monson nous exhorte à aller de l'avant dans cette œuvre. Vous savez, nous terminons nos réunions du jeudi au temple par le rapport de nos activités de la semaine précédente. Et il semble que sans exception, avec toutes les autres choses qu'il a faites en tant que président de l'Église, il y a toujours quelque chose d'un ministère individuel et d'un effort pour secourir. Il a rendu visite à quelqu'un dans une maison de repos, il a donné une bénédiction, il assiste à des funérailles, il a appelé quelqu'un qu'il savait être seul. Je pense que tout cela est un grand exemple de ce que signifie avoir cela, notre participation à l'œuvre rédemptrice du Seigneur au centre de notre vie.
Bon, essayons de voir quel est le rôle du Collège de la Prêtrise dans cet effort de sauvetage.
Pour moi, les collèges ont un rôle essentiel, un rôle de direction. Bien sûr, les présidents de collège ont les clés. Et ils ont le pouvoir d'édifier avec leurs conseillers une fraternité au sein du collège et d'aller vers les membres et les familles des membres du collège, qu'ils soient pratiquants ou non, et de les fortifier dans l'alliance de l'Évangile. Les aider à comprendre comment l'Évangile peut être dans leur vie et les aider à surmonter leurs difficultés. Pour moi, secourir, c'est ce que signifie réellement le serment et l'alliance de la prêtrise. Magnifier la prêtrise et les ordonnances qu'accomplit la prêtrise est au cœur de ce sauvetage. Vous avez souvent enseigné le rôle des collèges et des conseils de paroisse dans le sauvetage. Vous voulez dire quelque chose à ce sujet ?
J'aime les dirigeants de collèges d'anciens et de groupes de grands prêtres. Ils dirigent les collèges, et ces collèges ont besoin de direction. Trop souvent, nous ne leur accordons pas la place qu'ils méritent dans nos assemblées, pour comprendre le grand rôle de direction qu'ils ont. Et j'espère que nous comprendrons mieux ce qu'ils font en permettant à l'effort de sauvetage d'aller de l'avant dans le royaume de notre Père Céleste. Et j'espère que la durée de leur appel sera plus longue qu'elle ne l'est actuellement.
Je suis d'accord. Je dirais par ailleurs que ce que font les collèges, c'est réellement équiper les gens pour comprendre l'Évangile et l'appliquer pour surmonter les difficultés de la vie.
Très bien. Voici la dernière question de cette section. Y a-t-il des similitudes entre les efforts de sauvetage dirigés vers les membres non pratiquants et le programme missionnaire pour les non-membres?
Je suis heureux que vous ayez lié les deux, car je pense que c'est une seule et même chose. Dans un cas, l'effort est dirigé vers ceux qui ont eu l'Évangile et nous les ramenons au Sauveur. Et dans l'autre cas, c'est les amener au Christ pour la première fois. Mais en fin de compte, c'est la même œuvre. Et je dirais par ailleurs qu'on ne dit pas vraiment aux gens « Venez et recommencez votre vie à partir de rien », dans certains cas peut-être. Mais généralement, ce que nous disons, c'est gardez tout ce que vous avez, tout le bien que vous avez construit au fil des années et qui fait partie de votre vie jusqu'à présent, et nous ajouterons le reste. Nous fournirons l'équilibre que le Sauveur donne à travers son Évangile.
Très bien. Passons à notre dernière section. Respectez les alliances que nous faisons avec Dieu. Votre première question. En quoi les temples et les alliances du temple nous donnent-ils la force de surmonter les difficultés de la vie?
Je dirais que pour surmonter les difficultés, le temple et les ordonnances du temple sont l'application suprême de l'Évangile de Jésus-Christ. Je dis aux gens que l'une des bénédictions du temple et de ses ordonnances est la perspective qu'il nous donne. Lorsque nous allons au temple, nous laissons toutes nos préoccupations, nos problèmes et nos soucis à la porte. Et lorsque nous en ressortons, ils sont toujours là. Il nous faut les ramasser, ils n'ont pas changé, mais ce qui a changé, c'est nous. Et nous avons plus de force spirituelle, plus de capacité, une perspective plus juste de la vie et de son sens. Et peut-être que les gros problèmes ne semblent plus si gros et les plus petits problèmes que nous pensions ne pas être importants, nous ferions mieux nous en occuper avant qu'ils prennent de l'ampleur. Je pense que l'autre chose est qu'il y a un pouvoir divin associé à ces alliances. Dans Doctrine et Alliances, on peut lire qu'à travers les ordonnances de la prêtrise de Melchisédek, et particulièrement celle du temple, selon moi, le pouvoir de la divinité se manifeste. Et entre autres choses, je pense que cela signifie qu'il y a une influence, un pouvoir divin qui afflue en nous lorsque nous contractons ces alliances et les respectons. C'est donc un lieu ou se régénérer. C'est un lieu de révélation. Les temples ne peuvent remplir leur but que si nous nous sommes préparés. Les gens critiquent notre culte au temple, affirmant qu'il est indûment secret. Mais l'accès y est limité, non pour des raisons de secret, mais pour assurer une certaine préparation. Nous devons réellement être préparés et spirituellement mûrs pour contracter ces alliances et ensuite les respecter. Elles sont très sacrées.
Très bien. Quel est le rôle des alliances dans le processus de conversion réelle?
Pour moi, elles sont le chemin qui mène à une vie de disciple. L'essence de toutes ces alliances est l'obéissance, et ce jusqu'au sacrifice et à la consécration, mais en un mot, l'obéissance. Et selon moi, avec le temps, cela nous fait passer de l'homme naturel au saint. Et je ne pense pas qu'il y ait une autre voie, un autre chemin pour y parvenir. Pour moi, cela produit une grande foi qui fait que l'on sait qu'on a une promesse de Dieu personnellement, individuellement, sans tenir compte des autres. Nous contractons ces alliances individuellement, un à un. J'ai lu il y a quelques années un article dans un journal français qui parlait de notre œuvre pour les morts. Il était écrit que les Mormons plongeaient les microfilms dans une bassine d'eau et les ressortaient, et que toutes ces personnes étaient baptisées. Je me suis dit, formidable, pense à tout le temps qu'on aurait pu économiser. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne marche pas comme cela, parce que ces alliances sont individuelles, parce que les promesses de Dieu et nos promesses envers lui sont faites de personne à personne, l'un envers l'autre. Pour moi, cela produit la foi. Vous avez sa promesse. Vous savez qu'il ne peut pas mentir. Vous savez qu'il tiendra sa promesse et qu'il nous aide à affronter le quotidien. Quoi qu'il puisse se passer maintenant, nous savons que ce qui viendra à la fin, nous pourrons y faire face.
À présent, la dernière question. Que signifie nous exercer à honorer nos alliances?
Je me souviens qu'un jour, un des frères nous a dit: nous allons au temple pour faire des alliances. Nous rentrons chez nous pour les respecter. Et pour moi, en pratique, le respect des alliances est encore une fois quelque chose que l'on fait premièrement au foyer, dans le mariage et en famille. Mais nous parlons de l'application de l'Évangile dans le sauvetage, le service et l'obéissance. Pour moi, toutes ces choses signifie respecter ces alliances. Et je voudrais mentionner tout particulièrement un repentir continuel qui est facilité par la Sainte Cène. Si nous pouvons nous préparer chaque semaine pour ce que nous devons résoudre ou pour ce dont nous devons nous repentir, ou ce que nous devons confesser et gérer durant la semaine avant dimanche, et ensuite assister à la réunion de Sainte Cène, prendre les emblèmes de l'expiation du Seigneur, bénis par le pouvoir de la prêtrise, je pense que nous ne faisons pas que renouveler nos alliances. Nous recevons également la promesse de la rémission de nos péchés et la direction du Saint-Esprit dans notre vie. C'est ça, respecter ces alliances.
Très bien. Pourriez-vous témoigner de tout ce que nous avons dit?
Je vous remercie. L'Évangile a vraiment les réponses. C'est ce dont nous avons parlé. Servir, remplir son ministère, les ordonnances, le respect des alliances. Avec le temps, cela nous transforme. Avec le temps, cela augmente notre capacité d'affronter les problèmes. Cela nous aide réellement à prévenir et à éviter, comme l'a dit président Kimball, je pense que c'était cela, éviter beaucoup de difficultés de la vie et puiser à l'aide divine. Et pour moi, la clé est le don du Saint-Esprit. Nous avons ces bénédictions, cette direction constante et l'aide, la consolation et les dons de l'Esprit pour nous faire traverser la vie, quoi qu'il arrive. C'est notre tuteur dans l'application de l'Évangile, notre guide et notre réconfort. Et mon témoignage est que le Saint-Esprit et son pouvoir sont réels, que le Seigneur Jésus-Christ et son pouvoir rédempteur sont réels, et que Dieu notre Père Céleste, qui nous aime, a préparé la voie pour nous grâce à l'Évangile. Il est en fait notre Père et il vit. Je témoigne de tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je joins mon témoignage à celui de frère Christopherson. L'Évangile a été rétabli. C'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il la dirige. Il nous dirige et nous guide dans l'œuvre dans laquelle nous sommes appelés. Nous sommes dans la dispensation de la plénitude des temps. Il nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Je témoigne solennellement qu'il nous dirige et nous guide, et qu'il nous donne les réponses à tous les problèmes et à toutes les difficultés de la vie. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Dear brothers and sisters,
chers frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi et de votre dévouement à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes très reconnaissants à chacun d'entre vous. Dans l'Église, nous soulignons l'importance du mariage, des enfants et de la famille, parce que nous connaissons la doctrine. En tant que dirigeants de l'Église, nous savons que l'adversaire dirige sans cesse des attaques contre la famille. Dans les 50 dernières années, le taux de natalité a chuté dans presque tous les pays du monde. On repousse à plus tard le mariage et la famille est de moins en moins nombreuse, même dans l'Église. Notre tâche de défense de la famille n'est pas facile. On a tendance dans le monde à diminuer l'importance de la famille. On constate avec tristesse que les pouvoirs sacrés de la procréation sont profanés par beaucoup de gens. La nature de l'intimité conjugale qui est de conception divine est souillée par le fléau de la pornographie, fléau pernicieux et toxique qui crée la dépendance. En fait, nous élevons nos enfants en territoire occupé par l'ennemi. Le foyer de nos membres doit devenir l'asile principal de notre foi, où chacun peut être à l'abri des péchés du monde. Notre maître compte sur nous. Nous devons vivre selon sa vérité. Veuillez enseigner à nos membres que le mariage est ordonné de Dieu. Il repose sur la doctrine et est d'une importance éternelle. Le Seigneur a enseigné, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans les Saintes Écritures est donné par trois fois l'avertissement que la terre entière serait entièrement dévastée au retour du Seigneur si certaines conditions n'étaient pas respectées. Dans chaque cas, cet avertissement concerne la condition de la famille humaine en l'absence des ordonnances de scellement du temple. Sans ces ordonnances de l'exaltation, l'objectif de la création ne serait pas atteint. L'œuvre et la gloire de Dieu, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme, comprend le fondement sur lequel nous nous tenons en tant que dirigeants de l'Église. En 1995, la première présidence et le Collège des douze apôtres ont publié notre déclaration historique, la famille, déclaration au monde. En outre, deux de nos précédentes réunions mondiales de formation, les dirigeants se rapportaient à la famille. En février 2006, soutenir la famille, et février 2008, édifier une postérité juste. L'année dernière, nous avons publié le manuel 2, Administration de l'Église. Comme vous le savez, le premier chapitre de ce manuel enseigne la nature sacrée de la famille. Veuillez utiliser cette excellente documentation quand vous enseignez et conseillez nos membres. Enseignez que les relations familiales naissent de l'amour du mari envers sa femme et de la femme envers son mari. Le mariage associe deux personnes très différentes et imparfaites. Le mari et la femme gèrent mieux leurs imperfections en faisant preuve de patience et du sens de l'humour. Chacun doit être prêt à dire « Je suis désolé, je te demande pardon ». Chacun doit être un artisan de la paix. Chaque imperfection personnelle est une occasion de changer, de se repentir. Le repentir à tout âge permet d'accomplir les progrès nécessaires. Il mène à un profond changement de cœur qui conduit à l'amour de Dieu et du prochain, particulièrement du prochain avec lequel nous sommes mariés. Le repentir inclut le pardon, et le pardon est un commandement. Le Seigneur a dit, « Moi, le Seigneur, je pardonnerai à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. » Quand le repentir est complet, on se pardonne même à soi-même. Il se produit des différences d'opinion entre mari et femme, mais l'objectif du mariage ne consiste jamais à avoir raison, mais à établir une relation d'amour éternelle. Le mariage est sanctifié par la prière en famille le matin et le soir et par l'étude quotidienne des Écritures. On affermit le mariage par une planification prudente des finances, en évitant les dettes et en vivant dans les limites d'un budget avec la volonté d'obéir à la loi de la dîme du Seigneur. On dynamise le mariage en donnant la priorité au temps passé avec son conjoint. On protège le mariage en s'engageant de manière absolue à en assurer le succès. Rappelez à chaque détenteur de la prêtrise mariée que son devoir suprême est de prendre soin de sa femme. Elle lui permet de se qualifier pour obtenir ses plus grandes bénédictions. Et lorsque les enfants quitteront le nid, le mari aura sa femme et la femme son mari, dans ce qui peut être une phase merveilleuse et passionnante de la vie commune. Enseignez qu'être parent est une entreprise commune. Le père joue son rôle de dirigeant de manière éclairée et avec amour, sans jamais aucun degré d'injustice. La mère apporte l'intuition, l'inspiration et la sollicitude qui lui sont si naturelles. Ensemble, ils obéissent au commandement du Seigneur d'enseigner l'Évangile à leurs enfants. Jésus veut que les enfants viennent à lui, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les parents sont responsables de cet enseignement avec l'aide de l'Église. On trouve des instructions utiles sur le rôle de la famille et de l'Église dans le manuel 2, section 1.4. Frères et sœurs, je suis très reconnaissant de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Il apporte la lumière pour nous guider dans ce monde assombri par l'immoralité, l'iniquité et l'infidélité. Il nous enseigne à aimer tous les enfants de Dieu, dont certains affrontent des problèmes d'identité sexuelle ou d'autres situations que l'on ne peut pleinement appréhender. Nous devons les aider et les encourager. Eux et leur famille sans, évidemment, approuver le comportement pécheur. Jésus connaissait la volonté de son Père éternel qui a déclaré « Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme ». L'expiation de Jésus-Christ a permis que ces deux objectifs se réalisent. Grâce à l'expiation, l'immortalité est devenue une réalité à jamais pour tous ceux qui vivraient. Grâce à l'expiation, la vie éternelle, la vie avec notre Père céleste, est devenue possible pour tous ceux qui voudraient se qualifier. Pour se qualifier, on acquiert la foi. On se repent, on est baptisé, on reçoit le Saint-Esprit et l'on persévère jusqu'à la fin. Cette fin nécessite la dotation du temple et ses ordonnances de scellement. Le Seigneur a enseigné ainsi son prophète. Il y a dans la gloire céleste trois cieux ou degrés. Pour obtenir le plus haut, l'homme doit entrer dans cet ordre de la prêtrise, à savoir la nouvelle alliance éternelle du mariage. Sinon, il ne peut l'obtenir. Le plan du bonheur de Dieu est parfait. Quand nous l'enseignons chez nous, dans les collèges, dans les conseils et dans les classes, nous apportons de l'amour, de l'espérance, de la paix et de la joie pour ici-bas et pour l'au-delà. Je l'affirme en vous déclarant que je vous aime et que je vous apprécie. Maintenant, nous aurons le plaisir d'être instruits par Boyd K. Packer, président du Collège des 12 apôtres. Ce sera une bénédiction pour nous. Dieu vit, Jésus est le Christ, c'est son Église qui est dirigée aujourd'hui par le président Monson. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Cela fait plaisir d'être ici et de vous avoir pour écouter ce message qui sera diffusé dans le monde entier. J'ai prié avec beaucoup de ferveur pour que le pouvoir de l'Esprit soit avec moi. Lorsque les doctrines et alliances furent assemblées, les révélations furent réunies par Joseph Smith, le prophète, qui alors était encore dans ses 20 ans. Une révélation a été donnée comme introduction. C'est maintenant la section 1 des doctrines et alliances, bien qu'elle ait été donnée beaucoup plus tard que la majorité des révélations présentes. Il y a une expression dans cette révélation qui a modifié l'œuvre de l'Église et qui aurait pu modifier celle des églises chrétiennes pour toujours. C'est simplement l'expression « afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, oui, le Sauveur du monde ». Imaginez que l'on organise une église où l'autorité de la prêtrise devait être octroyée à tous les hommes dignes, semblerait une chose très imprudente et dangereuse. Mais c'est comme ça. Aussi, quand nous vous regardons dans le monde entier, vous, les membres de l'Église, nous n'avons jamais peur du progrès de l'Église, parce que nous savons que viendra, par la conversion et le baptême, un petit groupe et des frères auxquels la plénitude de la prêtrise pourra être conférée. Tout ancien détient la même prêtrise que le président de l'Église ou que moi en tant qu'apôtre, des offices différents. Mais la prêtrise ne se délègue pas et ne se partage pas un peu ici et un peu là. Elle est donnée dans son intégralité en une seule fois. Lors de l'ordination, on confère la prêtrise et ensuite on confère l'office. Ainsi, un jeune homme de 18 ans qui envisage de partir en mission est ordonné et la première chose que l'on dit est « Nous vous conférons la prêtrise de Melchisédek et ensuite nous vous ordonnons à l'office d'ancien dans cette prêtrise. » Cette prêtrise a d'autres titres. La prêtrise selon l'ordre le plus saint de Dieu et la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. C'est le pouvoir suprême ici-bas. C'est le pouvoir par lequel la terre a été créée et toutes les autres choses du vaste univers qui font partie de notre existence. Nous savons que tous les pères peuvent, ou devraient, officier dans la prêtrise, ce qui veut dire qu'ils détiennent la prêtrise et qu'ils président leur famille en justice. On nous reproche quelquefois de ne pas être aimables envers les sœurs parce qu'elles ne détiennent pas la prêtrise et de ce fait ne détiennent pas les offices des frères. Mais nous comprenons bien que notre exaltation éventuelle dépend de la sœur qui se tient à nos côtés, l'épouse, la mère de nos enfants, et que nul détenteur de la prêtrise ne doit en aucune façon mépriser ou diminuer la valeur et le pouvoir de sa femme. Quand j'entends ces commentaires prétendant que les sœurs sont inférieures aux frères, je voudrais que l'on puisse voir dans le cœur de chaque détenteur digne de la prêtrise pour comprendre ce qu'il ressent pour sa femme, la mère de ses enfants. De la vénération, pas tout à fait de l'adoration, mais une sorte d'adoration, du respect pour la compagne de sa vie, qui fait qu'à terme, il pourra être exalté. L'Église est très pratique dans son organisation. Nous ne nous bornons pas à avoir uniquement un prélat ou un prêtre ou un pasteur ou un vicaire qui a reçu l'autorité pour ensuite diriger les fidèles. Mais comme le dit cette expression simple des doctrines et alliances, chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, oui, le Sauveur du monde. Nous sommes très vigilants à fixer des normes de dignité, afin que lorsqu'il se prépare à recevoir la prêtrise, l'homme doive renoncer à beaucoup de choses dont jouissent les autres hommes dans la vie. et chacune de ses normes est une protection pour lui et sa famille. La parole de sagesse a été donnée à une époque où étaient inconnus les dangers du thé et du café, de l'alcool et du tabac et de toutes ces choses. Cependant, les premiers frères, se soumettant à ce que le prophète avait dit, acceptèrent volontiers le fait qu'il y a des normes à respecter quand on va être ordonné à la prêtrise. C'est une chose importante pour un père, un mari, que de vivre l'Évangile et de l'enseigner par l'exemple. La responsabilité de l'Église en cela est permanente. On appelle un homme comme président de pieu, ou évêque, ou autre officier président. Nous montrons du respect pour cette autorité. Et cependant, le mandat en est temporaire. Un jour, ce président de pieu sera relevé, ou cet évêque sera relevé, mais un ancien n'est pas relevé, un grand prêtre n'est pas relevé, et un 70 n'est pas relevé. Ils détiennent cette autorité et l'honneur de présider la famille et d'être père est éternel. Cela me réconforte beaucoup à mon jeune âge. Quand je pense que nous sommes mariés depuis 65 ans et que cela pourrait se terminer. Mais je me rends compte que l'Évangile est vrai et qu'il n'y aura jamais de fin. J'ai fait très attention et je continue à considérer ma femme avec ce respect et cette déférence qui lui sont dues, car elle accomplit ce qui a le plus de valeur pour une femme ici-bas, c'est-à-dire de vivre l'Évangile et d'être la femme et la mère des enfants d'un digne détenteur de la prêtrise. Avec l'établissement de l'Église, la prêtrise a été rétablie. D'abord la prêtrise d'Aaron, et ensuite celle de Melchisédek. L'Église n'a pas été donnée tout d'un coup, comme si le prophète s'était contenté de regarder un plan et l'avait ensuite communiqué. Elle est arrivée ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Mais comme elle est arrivée dans sa globalité à la plénitude des temps, finalement, nous l'avons rétablie dans son intégralité. L'Église grandit très rapidement, et nous vous imaginons dans les assemblées du monde entier, en train d'écouter cette émission. C'est grâce au bienfait de l'interprétation que nous parlons votre langue. C'est la seule façon par laquelle je parle une langue parfaite au peuple du monde. J'ai déjà suffisamment de difficultés avec l'anglais. Cependant, nous savons que les paroles sont interprétées exactement dans les autres langues, mais plus encore, qu'elles sont accompagnées par le pouvoir, l'esprit et l'intention. Nous accomplissons les ordonnances au nom de Jésus-Christ. Il y en a une ou deux qui diffèrent un peu de cette forme. L'une d'elles, détail intéressant, est le baptême, où l'on dit dans la prière « Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Il y a certaines ordonnances du Temple qui sont dites de la même façon. Aussi, tout ce qui peut être donné est donné. Et en temps voulu, nous apprendrons à connaître notre Père Céleste. Un Père aimant, dont le souci pour nous est tel qu'il se réjouit de notre bonheur. Et j'en suis sûr, verse des larmes à cause de notre désobéissance et de nos fautes. Quand nous avons des enfants à nous, et que nous détenons la prêtrise, et que ces deux choses sont réunies dans notre vie, alors nous savons ce qu'est la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, et nous savons qui il est. Le Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père, qui a opéré l'expiation par laquelle toutes les fautes que nous avons faites ici-bas peuvent être effacées. Et pour que nous nous tenions purs et sans tache devant le Père au jour du jugement. C'est une chose intéressante que dans le monde entier, chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, oui, le Sauveur du monde. Vous qui parlez dans des langues étrangères, certains parlent de nombreuses langues. Je connais une ou deux autorités générales qui ont l'air simplement de parler les langues comme on respire. J'ai voyagé avec Jacob de Yagar et nous sommes allés en Chine et ailleurs. On avait l'impression que lorsqu'il descendait de l'avion et qu'il prenait une grande respiration, il pouvait parler la langue et il la parlait bien. De cette façon, nous pouvons avoir des hommes meilleurs que nous, de bien des façons, pour diriger l'Église à l'extérieur, adaptés et parfaits parce qu'ils sont attachés au pouvoir des cieux. Ils sont soutenus par le bras du Tout-Puissant et savent que Jésus-Christ, le Fils unique du Père, est le chef de l'Église. Nous sommes ses serviteurs. Nous tous, et nous sommes ses fils, et nous sommes ses filles. C'est une source de grand réconfort pour moi, de savoir que comme j'avance dans la vie et que je fais des fautes, j'ai dit que j'espérais que ma dernière erreur serait la pire et que la prochaine n'arriverait pas. Je ne m'attends ni à l'une ni à l'autre. On fait des fautes, et l'on regarde en arrière, et l'on se demande, « Bon, où en suis-je maintenant, vers la fin de ma vie, pour affronter le jugement ?» Cela ne me gêne pas, parce que je me suis repenti, et que je m'appuie sur cette expiation grandiose qui est offerte quand on vit l'Évangile de Jésus-Christ. En tant que détenteur de la prêtrise, nous répondons à chaque appel qui se présente d'exécuter toutes les tâches qui surviennent. La plus importante se trouve entre les murs de notre foyer. Les derniers présidents de l'Église, conscients des agissements de l'adversaire, ont axé leur enseignement et leur prédication sur le foyer et la famille. Et c'est aussi ce que nous avons fait lors de cette réunion. L'Église est constituée de familles. Nous parlons d'organisation et des nombreux pieux et paroisses que nous avons, et ils sont secondaires et temporaires. Lorsque nous parlons du nombre de familles que nous avons, nous voyons la véritable croissance de l'Église. Je veux terminer par mon témoignage. J'ai vécu longtemps. J'ai beaucoup voyagé. 4 millions de kilomètres dans les pays du monde entier. J'en ai visité certains des dizaines de fois. J'ai appris que nous sommes les enfants de Dieu. Et j'ai appris que l'Évangile de Jésus-Christ est vrai. Lorsque nous venons à vous, dirigeants d'auxiliaires, de la prêtrise et de pieux. Nous venons avec le témoignage fervent et la connaissance, car nous savons que Dieu vit, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père. Et tout ce que nous faisons, c'est en son nom, en tant que ses agents, que nous le faisons. Ce que nous faisons en tant que ses agents pour gouverner l'Église, comme apôtre, ou pour diriger une paroisse, comme évêque, ou conseiller dans une présidence de collège d'anciens, tout cela passe après le fait d'être un père et un mari qui détient la prêtrise et vit en étant digne de la détenir. C'est la source du bonheur et la réalisation grandiose de la condition mortelle. Je sais que Dieu vit. Je sais que Jésus est le Christ. Je connais le Seigneur. C'est son Église et sa main directrice est sur elle, sur tous les détenteurs dignes de la prêtrise, sur toutes les femmes et les mères, et même les petits-enfants, protégés par la main bienveillante de celui qui est le Fils de Dieu. Je témoigne de lui,
Je témoigne du Père. Le témoignage que je rends est vrai. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, President Packer.
Merci, frère Packer. Merci, mes frères. Frères et sœurs, nous vous invitons à vous lever et vous étirer en préparation de la seconde partie de notre réunion.
Please be seated.
Veuillez vous asseoir. Les participants à la table ronde ont maintenant pris place et ceux qui étaient sur l'estrade sont maintenant dans l'assistance. M. Russell Ballard du Collège des Douze Apôtres dirigera le débat sur la manière dont l'Église peut participer à la conversion constante et au bien-être de ses membres, en prenant en compte le renforcement des collèges et les autres directives des manuels d'instruction. Les participants à la table ronde sont M. Russell Ballard et Neil L. Andersen du Collège des Douze Apôtres, Ronald A. Rasband de la présidence des 70, Hélène S. Dalton, présidente générale des Jeunes Filles, et Rosemary M. Wixom, présidente générale de la primaire.
Elder Ballard.
Frère Ballard.
Thank you, Elder Oaks.
Merci, frère Oaks. Nous sommes heureux de participer à cette réunion de dirigeants et nous apprécions les instructions données par les membres du Collège des Douze. Comme l'a dit frère Oaks, notre groupe discutera de la manière d'appliquer les principes de direction définis au chapitre 3 du manuel d'instruction numéro 2 et au chapitre 4 qui traite des conseils. Le Seigneur nous a donné un modèle dans les doctrines et alliances. Je lis. Et maintenant, voici, je vous donne le commandement de vous instruire et de vous édifier les uns les autres lorsque vous êtes assemblés, afin de savoir comment agir et diriger mon Église, comment agir concernant les points de la loi et des commandements que j'ai donnés. Notre tâche consiste à discuter de la manière d'appliquer les instructions que nous avons reçues dans cette réunion. Surtout, comment nous nous occupons des familles, comment nous affermissons les détenteurs de la prêtrise de Melchizedek, et comment nous aidons les jeunes à redevenir pratiquants et à se renforcer mutuellement. Nous savons que les membres de l'Église font face à des épreuves en ces jours difficiles. La croissance de l'Église se fait lorsque la conversion personnelle de longue date à l'Évangile se traduit par la fidélité accrue de la personne et de la famille. Il s'agit d'un effort soutenu, et c'est une bonne chose lorsque nous pouvons nous sauver et nous aider les uns les autres, en particulier un par un. Nous avons eu un excellent exemple dont vous aviez parlé, Sœur Wixom, de dirigeantes de la primaire qui ont rendu visite à une famille qui avait véritablement besoin d'aide. Voulez-vous nous en parler?
Oui, frère Ballard, cela arrive et cela arrive dans le monde entier. Lorsque la présidence de la primaire a l'occasion d'aller dans le foyer des enfants et de parler avec leur famille. Regardons ce qui s'est passé au Guatemala. Servir les familles, cela commence par les aimer, prendre soin de chaque membre de la famille et chercher à comprendre leurs besoins.
Stéphanie, quelle est la situation des enfants Vasquez?
Les enfants ont vraiment le désir d'aller à la primaire. Mais parfois, ils ne viennent pas à cause du problème de leurs parents.
Ces dirigeantes comprenaient que les enfants et les jeunes peuvent avoir une grande influence sur leur famille. Elles ont recherché la direction de l'esprit, discuté ensemble et décidé d'aller parler à la famille Vasquez. Les dirigeantes savaient que lorsque les enfants avaient la possibilité de venir à l'église, ils avaient des expériences spirituelles.
Cindy, ta maman m'a dit que tu te lèves tôt pour aller à l'église. Pourquoi aimes-tu aller à l'église?
Parce que j'aime en apprendre davantage sur la parole de Dieu et passer du temps avec les autres enfants.
Et toi, Danilo?
J'aime les Écritures, le livre de Mormon. Et quelquefois, on me fait lever pour prier et je prie pour ma famille, pour mes frères et pour tout le monde.
Sœur Vasquez, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vos enfants vont à l'église?
Je suis contente lorsqu'ils se lèvent et disent « Maman, allons à l'église ». J'aimerais pouvoir aller avec eux, comme ce dimanche par exemple. Mais mon mari, qui est malade, souffrait tellement qu'il ne pouvait même pas sortir du lit.
Si vous faites l'effort de prier pour lui, il pourra aller à l'église. Notre Père Céleste vous bénira et vous donnera à tous les deux la force dont vous avez besoin.
En travaillant avec l'épiscopat, ces dirigeantes de paroisse ont planifié des moyens d'aider les enfants et de fortifier leur famille. Une activité de la primaire inspirée a aidé les enfants à ressentir l'amour et l'amitié des autres membres de la paroisse.
Aujourd'hui, les enfants se sont fait des amis. C'est ce que nous recherchions. Qu'ils puissent se faire des amis dans l'église.
L'Esprit a touché le cœur des enfants. Alors ils se sont tournés vers leurs parents pour être guidés. Et les parents ont eu la force de revenir à l'église. Dans le manuel, nous apprenons « La famille est ordonnée de Dieu. C'est la cellule la plus importante dans le temps et l'éternité. »
C'est un très bon exemple, Sœur Wixom. Maintenant, parlons de ce que nous avons appris de ce petit exemple.
Avez-vous ressenti l'esprit dans ce foyer? Tout comme Frère Nelson nous l'avait appris plus tôt aujourd'hui, c'était un sanctuaire de foi. Au fond de leur cœur, les membres de cette famille savaient que l'Évangile est vrai. Ils avaient juste besoin de cette visite de la présidence de la primaire pour rapprocher les enfants des parents et fortifier leur famille.
Et aussi, la force de ces petits-enfants et les enfants qui s'intègrent au sein de la primaire. Et ainsi, même les petits-enfants peuvent participer à cette grande cause d'être ceux qui aideraient à ramener quelqu'un dans l'Église. Quelque chose en particulier, frère Rasband, que vous remarquez, sur laquelle vous voudriez faire des commentaires?
J'ai été touché par l'esprit des enfants. Dans cette séquence, ce sont les enfants qui ont aidé leurs parents à revenir, qui les ont aidés à revenir à l'église, parce qu'ils aimaient aller aux activités de la primaire et aller le dimanche à l'église, même si la mère et le père ne pouvaient pas y aller. Et je pense que c'est un bon exemple de la façon dont les enfants peuvent faire venir leurs parents avec eux.
L'exemple que nous avions sur la vidéo, Sœur Wixom, ces enfants apprenaient. Qu'est-ce qu'ils apprenaient?
J'ai remarqué cela aussi. Ils avaient suffisamment participé à la primaire pour connaître et ressentir le témoignage du livre de Mormon et le pouvoir de la prière. Et ils l'ont rapporté à la maison, à leur famille.
Tout cela est une affaire de conversion. Et ils ont dit qu'ils aiment lire le livre de Mormon et prier. Lorsqu'on est converti, naturellement, on fortifie ses frères.
Alors, Sœur Dalton, quel rapport avec tous les gens qui regardent cette émission dans le monde entier?
Eh bien, vous savez, je continue à penser, frère Asband, à l'écriture, un petit enfant les conduira. Et quelquefois, c'est le cas. Mais ce sont là des choses ordinaires que font les dirigeants dans le monde entier et qui donnent des résultats extraordinaires. Je connais des dirigeants des jeunes filles au Brésil qui avaient planifié une activité d'excellence pour les jeunes filles, spécifiquement pour une mère qui n'envisageait pas d'être membre de l'Église. Et lorsque sa fille a témoigné dans cette réunion, le cœur de la mère a été touché. Et les relations entre la mère et la fille ont été renforcées.
Certainement.
Et quand cela arrive, les familles sont fortifiées. Et cela arrive partout.
Je voulais juste ajouter que quelquefois, nous, dirigeants, dans notre zèle à vouloir aider les enfants, nous essayons de court-circuiter les parents. Et dans ce cas, nous ne l'avons pas fait. Et l'on pense à cette magnifique expression que l'on utilise dans l'Église depuis 50 ans. Elle se trouve dans le manuel, où il est dit que le foyer est la base d'une vie juste et qu'aucun autre dispositif ne peut le remplacer ni accomplir ses fonctions essentielles. Ces dirigeants sages de la primaire ont compris que la réponse n'était pas simplement de prendre les enfants. Elle devait se rendre au sein des familles, car c'est le dernier endroit où l'on trouvera la justice et la bonté.
Ces dirigeantes des jeunes filles le savaient aussi. Si elles pouvaient renforcer ce lien éternel entre une mère et une fille, la famille en serait fortifiée.
Une chose aussi que nous avons vue, qui était très importante, s'est passée dans le cadre d'un conseil dans la paroisse. Elles sont revenues pour parler de leur situation. Et imaginez la puissance qu'a une présidence de primaire lorsqu'elle parle en particulier d'une famille. Elles ont décidé qu'elles voulaient sortir pour essayer de toucher la vie de la famille Vasquez. Imaginez ce qui peut arriver dans les collèges d'anciens, dans les groupes de grands prêtres, ou toute autre personne non pratiquante ou qui a des problèmes. Lorsque nous nous mettons ensemble et que nous discutons des besoins de quelqu'un, ce que nous pouvons faire...
Bon, merci, frère Ballard. Je suis ému par la prochaine séquence, à cause de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Quand on pense aux directives et aux conseils que nous avons reçus, j'ai apprécié particulièrement frère Perry et frère Christopherson, qui ont parlé de l'importance de la prêtrise et du collège. Évidemment aussi le président Packer, dont les thèmes familiers de la vie au foyer, de la famille et du pouvoir de la prêtrise sont tous traités dans cette histoire que nous allons voir, qui se passe dans les îles britanniques. Regardons maintenant.
Aussi longtemps que je m'en souvienne, frère Grant était non pratiquant depuis environ 20 ans.
Je suis devenu non pratiquant pour toutes les mauvaises raisons, et je le suis resté très longtemps.
J'ai commencé à agir avec Case et sa famille en leur parlant pour les aider à revenir. À cette époque, Case était prêtre. C'est pourquoi nous avons commencé à travailler pour qu'il reçoive la prêtrise de Melchizedek. Une fois qu'il l'a reçue, il a été appelé comme deuxième conseiller dans la présidence du Collège des Anciens. J'ai pu véritablement travailler avec lui et l'encourager. Y a-t-il quelque chose que Jean et moi puissions faire pour vous?
J'aimerais que vous me donniez une bénédiction.
Nous l'appelons par son nom complet, par l'autorité de la prêtrise de Melchizedek, et nous scellons l'onction qui vient d'avoir lieu. Ensuite, nous lui donnons une bénédiction dictée par l'Esprit.
Donner une bénédiction est le privilège d'agir au nom de Jésus-Christ, de pouvoir faire son œuvre.
Après qu'il a reçu la prêtrise de Melchizedek, nous lui avons fixé le but d'être doté et scellé. Il a assisté au cours de préparation pour le temple. Lorsqu'il a eu une recommandation à l'usage du temple, nous y sommes allés pour faire des baptêmes.
Il m'a aidé à me préparer. Il a pris contact avec le temple et pris les rendez-vous pour nous.
Alors j'ai pu l'aider à se préparer, le soutenir et le diriger quand il a reçu sa dotation. Et ensuite j'ai été témoin de son scellement avec sa femme en une famille.
C'est si calme et si paisible.
Cela ne ressemble à rien de terrestre. J'ai l'impression que c'est comme si l'on était à mi-chemin entre les ici et les cieux. Notre famille s'est beaucoup rapprochée depuis notre retour à l'église. Il n'est pas question que j'arrête de nouveau d'aller à l'église. Tant que je vivrai, je serai là.
J'étais fier, mais pas vantard. J'étais fier que notre Père Céleste soit content du travail que j'avais fait avec eux, en les encourageant et en les soutenant. Qu'apprenons-nous de cette expérience faite par la présidence du Collège des Anciens ?
Tout d'abord, frère Ballard, il s'agit d'une histoire vraie. Il s'agit de Ben Blackburn, qui est le président du Collège des Anciens, qui a tendu la main à un membre du Collège pour le servir, et, avec les autres membres du Collège de la paroisse, a amené une famille au Temple pour recevoir les ordonnances et contracter les alliances. N'est-ce pas puissant ?
Nous devons nous demander, je crois, lorsque nous voyons un tel exemple, combien d'autres enfants de notre Père, hommes et femmes, et même des enfants sont égarés, et quel résultat ce genre d'attention pourrait donner.
Vous savez, le président Monson, je l'ai entendu enseigner de nombreuses fois que le sentiment le plus sublime que l'on a dans la vie est de savoir que le Seigneur nous a envoyés pour répondre à la prière d'autrui. Et vous savez combien de gens dans le monde où nous vivons aujourd'hui prient pour trouver des solutions, avoir de l'espoir. Et il se peut qu'ils ne sachent même pas qu'ils sont à la recherche de l'Église ou qu'ils veulent y revenir. Mais on voit chez ce président de collège d'anciens le désir de tendre la main à une famille et de l'aider. C'est le rôle que le président Monson nous a enseigné à de multiples reprises.
Et cela a été souligné par les frères dans la première partie de l'émission. Ils ont donné de très bonnes suggestions sur la façon d'obtenir ces résultats pour d'autres enfants de notre Père Céleste.
Le moment que je préfère dans cette séquence, c'est quand l'instructeur au foyer apprend au mari à donner une bénédiction. Ces deux instructeurs au foyer auraient pu donner cette bénédiction à cette femme, mais une femme aime plus que tout d'avoir les mains de son mari sur sa tête. Il l'a guidée et lui en a donné l'occasion.
Merci. Frère Husband, vous savez, le président Packer enseigne souvent l'expérience de l'ancien. Voudriez-vous faire part à toutes les personnes dans le monde entier du moment où on lui a demandé de donner une bénédiction mais qu'il a décidé de ne pas le faire?
Bon, cela ressemble beaucoup à ce que l'on vient de voir. Quand le président Packer essayait d'aider un père non pratiquant et que quelqu'un a demandé une bénédiction, on a invité le président Packer à la faire. Mais il s'est tourné lui-même vers le père et a dit « Vous savez comment faire, et pour ce que vous ne savez pas, je vous aiderai. » Et le président Packer l'a aidé à savoir, tout comme nous avons vu ce président de collège d'anciens expliquer à ce frère. Voici comment on fait une bénédiction. Et il l'a fait. Le président Packer a toujours dit « Je suis vraiment reconnaissant de ne pas avoir interféré dans cette bénédiction faite par un père, un mari digne. »
C'est un bon exemple. Et qu'arrive-t-il, frère Andersen, à ce père non pratiquant ou à ce dirigeant de la prison de Melchizedek qui donne sa première bénédiction, peut-être après très longtemps, ou même la première qu'il ait jamais donnée?
J'ai connu cela quand j'ai aidé un homme qui était membre depuis 10 ans et n'avait jamais donné de bénédiction. Et les versets suivants cités par le président Packer, où il dit que chacun parle au nom de Dieu, juste après ça, il est dit « afin que la foi grandisse sur la terre ». Et c'est ce qui arrive. C'est qu'il y a une abondance de foi dans le cœur de la personne qui donne la bénédiction.
Nous tous qui assistons à cette réunion dans le monde, pourrions-nous penser aux hommes merveilleux qui n'ont pas donné de bénédiction depuis longtemps et à qui nous pourrions parler en utilisant les principes que nous ont enseignés les membres des 12 plus tôt dans cette réunion?
J'aimerais ajouter un autre point qui, je pense, était très important et que Frère Perry a souligné ici. Il a dit, dans la mesure du possible, que nous devons élever le rôle du président du collège des anciens, du chef de groupe, des grands prêtres, pour que l'évêque et l'épiscopat puissent s'occuper des devoirs dont ils ont la charge. Et je crois qu'il a dit, dans la mesure du possible, qu'ils doivent assumer leurs appels plus que quelques mois, ou même un ou deux ans. Le rôle du président de collège des anciens et celui du chef de groupe des grands prêtres doivent être mis en avant dans la paroisse.
Quel est l'objectif principal de l'Église, Sœur Dalton? Quelle est cette œuvre que nous essayons d'accomplir?
C'est de réunir la famille, de la sceller afin qu'elle soit éternelle dans le royaume de notre Père Céleste.
Absolument. Et nous pourrions utiliser ces paroles, voici mon œuvre.
Et ma gloire.
Oui. Réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Ainsi, parmi tous les efforts que nous faisons dans l'Église, nous devons toujours garder à l'esprit que nous essayons de nous aider mutuellement à atteindre ce but magnifique pour pouvoir revenir chez notre Père Céleste quand la vie sera finie. Frère Anderson et Rasband, parlez-nous un peu de cet effort pour amener ce brave frère au temple. Quel est votre avis à tous les deux?
Bon. Frère Perry et Frère Christopherson ont parlé de la façon dont tout cela nous conduit au temple. Et ce brave président de collège des anciens en Angleterre, n'essayez pas seulement de ramener cet homme à l'Église. Il avait en vue les alliances pour l'amener au Christ par les ordonnances du Temple. Et n'était-ce pas magnifique de voir ces photos à l'extérieur du Temple? Le président du Collège des Anciens, souriant, comme un père fier, comme les personnes avec lesquelles il avait travaillé, pendant pas mal de temps, parce que, disait-il, il l'avait emmené tout d'abord faire des baptêmes pour les morts. Sa pensée allait plus loin que simplement l'amener à l'église. Il l'aidait à se mettre en relation avec son Père Céleste.
J'aime cette idée parce que c'est vraiment le cas. Nous devons toujours garder l'œil fixé sur le temple, tandis que nous servons les autres.
En regardant cette séquence, je songeais à 3 Néphis, chapitre 18, verset 32. Et je pensais à un président de collège d'anciens, et à la famille, et au rôle que le Seigneur a aussi joué dans cet événement. Toutefois, vous ne le chasserez point de vos synagogues ou de vos lieux de culte, car vous continuerez à enseigner les personnes de ce genre, car vous ne savez point si elles ne reviendront pas, si elles ne se repentiront pas et si elles ne viendront pas à moi avec une ferme résolution, et je les guérirai, et vous serez le moyen qui leur apportera le salut. Le rôle du Seigneur est de les guérir, et le rôle de tous les présidents et membres de collèges d'anciens est de les amener par ce processus.
Ce président de collège des anciens permettait à ce brave homme de se tourner vers Dieu et vers la prière, en le laissant progresser petit à petit, pas à pas.
Il a eu un appel très rapidement.
Oui, c'est vrai.
Il redevient pratiquant et il est appelé comme conseiller dans la présidence du collège.
Bon, tout cela fait partie du programme. Je veux dire que c'est une bonne idée de le faire agir, de lui donner quelque chose à faire.
Je voulais juste faire un commentaire. Quand vous avez lu 3 Néphis, chapitre 18, et que vous avez dit « Néanmoins, vous continuerez », avez-vous remarqué que par deux fois, dans ces versets, on utilise la même expression, « Néanmoins, vous servirez ». Je pense que le Seigneur veut dire « N'abandonnez pas ». Et lorsque vous vous heurtez à un refus, continuez à aimer et à enseigner, quoi qu'il en soit.
C'est un bon exemple. Merci, frère Rasband, de cela. Maintenant, changeons de sujet et parlons de l'avenir de l'Église, qui est représentée par les jeunes gens et les jeunes filles, et la jeunesse de l'Église. Nous avons été instruits sur le service et de la façon dont un service efficace influence la personne qui rend service et celle qui le reçoit. Frère Anderson, vous avez vécu une expérience et vous aimeriez nous raconter et qui illustre cela de façon remarquable.
Bien, frère Perry et frère Christopherson ont parlé du pouvoir sanctificateur du service et que le Seigneur a enseigné avec force que c'est le serviteur qui est le plus grand et non pas le maître. C'est illustré par un jeune président de collège des diacres nommé Spencer dans l'État d'Arizona, aux États-Unis, qui a aidé un jeune nommé Dayton dans son collège. Cet exemple est très spectaculaire et n'illustre peut-être pas ce que pourraient faire tous les présidents de collèges de diacres, mais il donne le ton de ce que nous voulons apprendre. Regardons. Lorsque j'ai été appelé président du collège des diacres, j'ai senti une lourde responsabilité du fait que je devais veiller sur tous les membres du collège. J'ai rencontré Dayton dans notre collège de diacres à l'église. Dayton souffre de paralysie cérébrale. Il ne peut ni parler, ni vraiment communiquer, mais on peut ressentir son esprit. Il fallait qu'il ait l'occasion de faire tout ce que les autres font.
Nous avons toujours essayé de le faire participer à tout ce que nous faisons. Avec l'expérience, nous avons découvert qu'il aime bien sentir le vent sur sa figure. Spencer s'est agenouillé devant Dayton, lui a saisi les genoux et lui a dit « Dayton, voudras-tu faire un triathlon avec moi ?» Dayton communique en clignant des yeux pour oui et rien pour non. Il a commencé à cligner et Spencer a dit « Il a dit oui ».
Cela a été une expérience différente des autres triathlons que j'avais fait parce que lorsque j'étais sur le vélo, c'était plus dur de tirer quelqu'un sur tout le parcours. Je savais que Dayton était à 1,50 m de moi tout le temps. Et c'était génial de savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière, un de mes meilleurs amis qui était avec moi.
J'ai appris de grandes leçons d'amour de la part d'un garçon qui fait ce que le Christ aurait fait s'il avait été ici, en assumant ses responsabilités de président du collège des diacres, en tant qu'ami.
Près de la ligne d'arrivée, cela a été très spirituel pour nous, parce qu'il m'a montré que l'on peut faire des choses difficiles, peu importe les défis ou les circonstances. J'étais complètement à plat. Je n'avais plus d'énergie, mais soudain, je ne sais pas d'où cela est venu, Dayton a commencé à sourire, et j'ai commencé à accélérer. Et j'ai eu de l'énergie pour sprinter sur les 100 derniers mètres, avant la ligne d'arrivée. Sur la ligne d'arrivée, je me sentais en pleine forme. J'avais l'impression que l'esprit était là pour nous aider, Dayton et moi, à finir cette course.
Il ne veut pas du tout être considéré comme le héros. Il veut que l'on considère Dayton comme le héros et lui comme ses jambes.
C'est une bénédiction pour moi de détenir la prêtrise. Je sens que mon Père Céleste et mon évêque ont énormément foi en moi et que je peux rendre des services à autrui, que je peux agir quand je vois quelque chose à faire.
J'ai vu cette séquence deux ou trois fois et à chaque fois, je retiens mes larmes. Mais qu'avons-nous appris? Parlons-en. Quels sont les principes que tout président de collège de diacres doit appliquer? Il n'a pas besoin d'être tout à fait comme Spencer, mais parlons de la façon dont ces dirigeants de collège de la prêtrise d'Aaron peuvent toucher la vie des membres de leur collège.
Eh bien, frère Ballard, nous avons tout d'abord entendu Spencer dire « Lorsque j'ai été appelé président du collège des diacres, j'ai senti peser une lourde responsabilité du fait que je devrais veiller sur les autres membres de mon collège. » Et c'est une chose que nous verrons de plus en plus dans les années à venir. Que les jeunes présidents de collège et des jeunes filles assumeront plus de responsabilités envers les jeunes de leur âge. Écoutez cette recommandation de Doctrine et Alliance donnée à un président de collège des diacres, il est dit, et de plus, en vérité, je vous le dis, le devoir du président de l'office de diacre est d'exercer la présidence et de siéger en conseil avec eux, de leur enseigner leurs devoirs, s'édifiant les uns les autres comme le stipulent les alliances. Eh bien, c'est une grande responsabilité, mais c'est la leur.
Sœur Dalton, Quel est le rapport avec les jeunes filles?
Vous savez, cela m'émeut parce que nous voyons des jeunes filles faire la même chose. Le progrès personnel pour les jeunes filles qui ne peuvent le faire elles-mêmes. Et cela me rappelle, comme à vous, frère Anderson, un passage des Doctrines et Alliances qui dit dans la section 84 au verset 106 « Et si quelqu'un d'entre vous est fort dans l'esprit, qu'il emmène celui qui est faible, afin qu'il soit édifié en toute humilité, afin qu'il devienne fort aussi. » Et ces jeunes gens de notre Église sont incroyables. Ils peuvent faire pour les autres ce que les autres ne peuvent faire pour eux-mêmes. Et ils le veulent. Ils sont extraordinaires.
Merci beaucoup. Frère Rasban, où sont les futurs présidents de collège, d'anciens, grands conseillers, membres d'épiscopat et de présidents de pieux? Où sont-ils aujourd'hui?
Eh bien, on les trouve dans les collèges de diacres, d'instructeurs et de prêtres, dans toute l'Église. Et ils sont tous accompagnés par de merveilleuses jeunes filles, chez les abeilles et dans chaque organisation des jeunes filles. Et c'est le pouvoir de l'avenir de l'Église. Le jeune Spencer qu'on voit ici, ce président de collège de diacres, il m'inspire. Il a le cœur juste et est tellement sincère.
Je voudrais que tous les diacres de l'Église voient cette séquence.
Je ne sais pas pourquoi ils ne le pourraient pas, elle est sur l'Internet.
C'est vrai, elle sera dans notre documentation de formation des dirigeants et certainement tous les présidents de collège, s'ils le demandent à leur évêque, pourront voir cette vidéo.
Certains de ces futurs dirigeants se trouvent à la primaire. Et lorsque Spencer a dit « J'ai découvert que je pouvais faire quelque chose de difficile », j'ai pensé que c'est exactement ce que nos jeunes d'aujourd'hui ont besoin de savoir et de ressentir en leur fort intérieur, qu'ils peuvent faire une chose difficile et se tenir seuls si nécessaire, comme l'a dit le président Monson.
Et je pense que tous ceux qui ont écouté parler Frère Nelson de l'importance du mariage devrait visionner cette petite démonstration ou présenter l'exemple de leur propre paroisse ou branche. Comme les enfants sont précieux, comme le mariage est précieux, comme c'est précieux d'avoir un jeune garçon comme Dayton et un président de collège de diacres comme Spencer qui font le même parcours. Mais ils ont un père et une mère, et sans le mariage, ces enfants spirituels de notre Père Céleste ne peuvent pas venir dans des foyers comme celui-ci.
Avez-vous vu à quel point le père et la mère étaient touchés que quelqu'un se soucie de leur fils? Et cela renforce votre foi quand vous voyez un jeune garçon servir comme le ferait le Sauveur? Cela renforce ma foi.
Frère Perry et moi, il y a juste quelques semaines, étions dans une paroisse et il allait enseigner quelques principes de la prêtrise de Melchisédek. Toute la prêtrise était là. Et au moment où j'allais commencer à parler, deux jeunes gens ont quitté brusquement la salle. Je me suis dit, je ne sais pas vraiment comment je dois interpréter cela. Et puis environ 15 minutes après, vous savez, la paroisse se trouve en Utah avec des maisons près de l'église. Les voilà qui reviennent avec un autre garçon dans leurs bras. Après la réunion, nous avons vu ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient le faire progresser. Ils n'étaient pas là et ils étaient partis le chercher. Et dans l'esprit des enseignements du président Monson, ils étaient allés à son secours ce matin-là.
Si le président Monson était ici, il dirait « Tendez la main à la veuve et à celui qui est seul et rate les bénédictions de l'Église ». Je crois que c'est une excellente occasion que nous avons eue d'apprendre ensemble comment agir et comment assurer l'accomplissement des alliances qui attendent les enfants de notre Père Céleste lorsqu'ils mettent en application ces principes qui ont été enseignés ici. Faisons un tour de table et résumons ce qui ressort de cette petite discussion. Frère Anderson et Sœur Dalton, quelque chose que vous souhaiteriez dire pour terminer?
Eh bien, je crois que ce qui me vient à l'esprit, c'est la sainteté du mariage, le pouvoir de la famille. Je me souviens que le président Packer a dit, Nous sommes une organisation de famille, pas simplement une organisation de paroisses et de branches. Et nous devons amener ces familles au Christ, ou un détenteur de la prêtrise, si c'est possible, agit au nom du Seigneur pour aider toute la famille à aller au Christ. Et je veux juste vous témoigner à vous et à ceux qui écoutent que je sais que ce pouvoir du Christ, si nous nous efforçons d'amener autrui au Christ, nous permettra de savoir vers qui nous tourner et qui aider.
Sœur Dalton ?
Vous savez, je pense que ce qui me touche le plus, c'est que c'est l'œuvre du Seigneur et qu'elle se fait individuellement. Elle se fait individuellement et nous en avons un bon exemple avec notre prophète. Il montre la voie et il sert chacun individuellement. Les dirigeants ne doivent pas se sentir écrasés par la responsabilité. Il y a tant de gens qui ont besoin d'aide. Mais ce que j'ai ressenti et vu aujourd'hui, c'est là-dessus que nous avons concentré nos efforts. Ces dirigeants se sont concentrés sur une personne qu'ils pouvaient aider. Et si tout le monde ne faisait que ça, tout changerait. Les familles seraient différentes, les personnes seraient différentes. Je veux ressembler à notre prophète, parce qu'il est comme le Sauveur.
Merci beaucoup. Sœur Vixom.
Merci, frère Ballard. Dans Alma, chapitre 24, les Antines et Philéi discutent de ce qui les a aidés à changer d'attitude, à passer de la méchanceté à la justice, à revenir dans le troupeau, et leur dirigeant dit, « Et voici, je remercie mon grand Dieu de ce qu'il nous a donné une part de son esprit pour adoucir notre cœur, de sorte que nous sommes entrés en relation avec ses frères les Néphites. Créer des relations avec les membres de leur paroisse ou de leur branche a fait toute la différence. » Et le cœur de ces Lamanites a été adouci et ils sont revenus.
Les relations signifient communication.
Oui, servir, parler, aller chez les gens, comprendre leurs besoins, les aimer comme nos frères et nos sœurs, comme les fils et les filles de notre Père Céleste.
Merci beaucoup. Frère Hasban,
dans tout ce qui a été dit, j'ai apprécié l'esprit de conseil qui s'est manifesté dans chaque petite séquence. Les présidences de primaire tenant conseil avec les épiscopats, les présidences de collège tenant conseil pour déterminer la façon de servir leurs membres. Même la présidence du collège des diacres, j'en suis sûr, a parlé de Dayton. Et cela aide beaucoup les pères et les mères, les conseils dans lesquels nous pouvons être impliqués dans l'Église du Seigneur.
Merci. Frères et sœurs, cela a été pour nous un plaisir et un honneur de participer. Nous espérons que tous ceux qui assistent à cette formation de dirigeants la regarderont avec attention, la regarderont plusieurs fois, penseront à leur situation personnelle, à la situation où ils se trouvent et détermineront ce qu'ils peuvent faire en plus dans leurs divers appels pour édifier, inspirer et bénir les enfants de notre Père Céleste. Nous demandons à notre Père Céleste de vous bénir, de veiller sur vous, de vous bénir dans vos appels, de vous inspirer et de vous donner des incitations et des impressions sur ce que vous faites personnellement et dans ce que vous faites ensemble dans votre paroisse ou votre pieu ou votre conseil familial pour bénir davantage d'enfants de notre Père Céleste. Imaginez ce qui arriverait si chaque collège d'anciens pouvait amener seulement une ou deux personnes par an. Je parle de chaque présidence travaillant ensemble pour que cela se fasse. Ce n'est pas si dur que ça quand on examine les efforts à faire pour se tourner vers les enfants de notre Père Céleste qu'il aime et dont nous avons la responsabilité parce que nous avons la plénitude de l'Évangile éternel de Jésus-Christ. Nous remercions notre Père Céleste du rétablissement de l'Évangile par le prophète Joseph et nous témoignons que c'est la véritable Église de Jésus-Christ ici-bas. et que notre Père Céleste et le Seigneur nous béniront si nous agissons. Puisse cela être le cas pour chacun de vous. C'est notre humble prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, panel.
Merci aux participants. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Après son message, nous terminerons cette réunion en chantant le cantique numéro 159, Mettons de l'ardeur. Puis la prière sera offerte par sœur Erika Fernandez, dirigeante de la primaire dans le pieu de West Jordan, Oakier Point, en Utah. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette réunion et nous prions pour que ces enseignements soient une bénédiction pour les membres de l'Église à travers le monde. Le président Uhrdorf.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le président Monson m'a demandé de m'adresser à vous. Il m'a demandé d'exprimer son amour et sa bénédiction à chacun d'entre vous. Nous savons que vous avez mis de côté d'autres choses pour assister à cette session mondiale de formation, et nous vous félicitons de votre fidélité. Nous vous aimons pour votre diligence à consacrer votre temps, vos talents et vos moyens à l'édification du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu de sages conseils de personnes qui ont consacré leur vie à écouter et suivre la voix du Saint-Esprit. Nous vous exhortons à suivre attentivement leurs conseils. Bien sûr, nous savons qu'entendre des conseils et agir en fonction de ceux-ci sont deux choses très différentes. Le Sauveur a parlé de cette différence quand il a dit que les gens qui entendent et obéissent sont comme ceux qui bâtissent leur maison sur un roc. Mais que ceux qui écoutent mais n'obéissent pas peuvent finir par perdre leur maison. Les membres de l'Église sont formidables dans leur désir d'obéir et de suivre le Seigneur. Mais parfois, malgré nos bonnes intentions, nous reportons les choses que nous devrions faire ou nous comprenons mal ce qui nous a été enseigné. Alors, des conseils inspirés peuvent ne pas avoir les effets promis. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui avait rêvé que son mari lui offrait le magnifique collier qu'elle avait toujours désiré. Quand elle a demandé à son mari ce qu'il pensait que son rêve signifiait, il a souri comme seul un mari aimant peut le faire et a répondu « Tu verras bien ce soir ». En rentrant chez lui le soir, le mari a offert à sa femme un cadeau magnifiquement emballé. Elle l'a ouvert, profondément reconnaissante pour son mari sensible, et a découvert un livre intitulé « Guide pour comprendre les rêves ». Harold Billy a dit aux instructeurs de l'Église qu'il n'est pas simplement important d'être compris, mais qu'il faut également ne pas être incompris. La première chose que nous devons faire, c'est comprendre. La seconde, c'est mettre notre compréhension en action. C'est ce qui signifie le cantique. Le monde a besoin d'ouvriers. Dans cet esprit et dans la continuité de ce dont le groupe de frères Ballard a parlé, j'aimerais vous donner des conseils supplémentaires et quelques suggestions sur la façon dont vous pouvez mettre en pratique ce que vous avez entendu aujourd'hui. Nous, les humains, avons une tendance étrange à compliquer les choses simples. Nous définissons des règles, des lois, des arrêtés, des processus et des processus d'échelle inférieure. Au final, nous empilons charge après charge jusqu'à avoir une infinité d'attentes si compliquées qu'il est difficile de les suivre et encore plus de les atteindre. C'est l'une des raisons pour lesquelles Paul a dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Trop souvent, nous compliquons la beauté et la simplicité de l'Évangile de Jésus-Christ avec d'interminables listes d'attentes méticuleuses. Cependant, quand nous nous concentrons sur les pourquoi de l'Évangile, beaucoup de cette confusion se dissipe. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi devons-nous obéir aux commandements? Pourquoi l'expiation de Jésus-Christ est si précieuse pour nous? Les bonnes questions commençant par « Pourquoi ?» nous mèneront aux bonnes décisions répondant à « Qui ?» « Quoi ?» « Quand ?» « Où ?» et comment. Frère Ballard et son groupe nous ont donné un bon exemple en demandant pourquoi nous réunissons-nous en conseil? Pour organiser ou modifier le calendrier de paroisse? Pour discuter des postes à pourvoir? Pour planifier le nettoyage du bâtiment? Il peut être urgent et nécessaire de régler ces problèmes, mais sont-ils les plus importants? Il y a beaucoup de manières d'améliorer le temps précieux du conseil, par exemple en arrivant toujours bien préparé. Nous pouvons régler la planification ou d'autres aspects d'organisation par téléphone, courriel ou message texto. Quand nous laissons des aspects d'organisation dominer nos efforts et le temps de nos conseils, nous courons le risque de passer à côté de la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés au ministère dans son Église. Nous nous réunissons en conseil pour rechercher l'inspiration de l'Esprit dans l'édification du royaume de Dieu. Nous nous réunissons pour chercher les réponses à deux questions fondamentales. Premièrement, comment pouvons-nous aider nos membres à mieux aimer le Seigneur notre Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit? Deuxièmement, comment pouvons-nous aider nos membres à mieux aimer leurs prochains comme eux-mêmes? Toutes les autres choses dont nous parlons dans nos conseils au sein des organisations de notre Église doivent dériver de ces grands commandements, car tout le reste dépend d'eux. Une fois que nous comprenons la raison d'être de nos réunions de conseil, il nous est plus facile de nous concentrer sur la manière de l'accomplir. Par exemple, si nous réfléchissons à des façons d'augmenter l'amour de notre prochain parmi nos membres, nous pouvons décider de planifier une activité de service dans laquelle nous inviterons nos membres non pratiquants et nos amis d'autres confessions. Toutes nos discussions concernant les jeunes et les personnes âgées, des besoins d'entraide à l'œuvre missionnaire, de l'enseignement, de l'Évangile à la fortification des familles, devrait être encadré par ce contexte. En simplifiant et en renforçant le processus du conseil et en nous efforçant de recevoir l'Esprit, nous trouverons le feu vivifiant du Saint-Esprit qui apporte conseil et soutien divin à nos efforts. Certains peuvent être tentés de dire « Dites-nous juste quoi faire et nous le ferons ». Nous admirons le désir juste d'être obéissant. Mais être dirigeant dans l'Église, et davantage encore dans la vie, signifie plus que de cocher des éléments d'une liste de tâches à accomplir. Comme vous l'avez remarqué, les nouveaux manuels ne spécifient pas en détail chaque action que vous devez entreprendre dans votre appel. Ces manuels sont fournis pour définir la structure appropriée sans en réglementer chaque détail. Il peut être sage de chercher dans les manuels et même dans les Écritures, non pas des listes ou des détails, mais des occasions de préparer notre esprit et notre cœur à recevoir l'inspiration divine concernant nos responsabilités. Malheureusement, parfois, nous ne recherchons pas la révélation ou des réponses dans les Écritures ou les manuels parce que nous pensons déjà connaître les réponses. Frères et sœurs, aussi bonnes qu'aient été nos expériences précédentes, si nous arrêtons de nous poser des questions, de réfléchir et de méditer, nous pouvons contrecarrer les révélations de l'Esprit. Souvenez-vous, souvenons-nous, ce sont les questions que le jeune Joseph a posées qui ont ouvert les portes du rétablissement de toutes choses. Nous pouvons bloquer la progression et la connaissance que notre Père Céleste souhaite que nous recevions. Combien de fois le Saint-Esprit a-t-il essayé de nous dire quelque chose que nous avions besoin de savoir sans pouvoir dépasser l'impressionnante porte en acier de ce que nous pensions déjà savoir ? Un autre sujet dont je voudrais discuter est la différence entre la croissance et la croissance réelle. Nous en avons déjà entendu parler aujourd'hui. Dans le cadre de l'Église, la croissance peut se définir par de nouveaux membres. On obtient de nouveaux membres par le baptême des enfants de 8 ans et par le baptême des convertis. Cependant, la croissance réelle s'obtient par un accroissement du nombre de membres pratiquants. Dans certaines régions de l'Église, nous avons une grande croissance du nombre de nouveaux membres. Pourtant, le nombre de membres pratiquants stagne ou ne progresse que très peu. Nous avons des moyens de connaître l'activité dans l'Église, tels que l'assistance à la réunion de Sainte-Cène, l'ordination à la prêtrise à l'âge approprié, le service missionnaire et la possession d'une recommandation à l'usage du temple en cours de validité. Peut-être les indicateurs les plus exacts de la progression réelle dans l'Évangile de Jésus-Christ sont-ils ceux que nous ne pouvons pas mesurer si facilement, tels que la prière quotidienne, l'étude des Écritures, la soirée familiale, l'amour dans le foyer et pour notre prochain, et les expériences personnelles avec l'expiation du Christ. Rien de tout cela n'est enregistré par un greffier dans les registres de l'Église, mais cela l'est dans notre cœur et aux cieux. Nos efforts missionnaires sont compromis si nous baptisons les enfants de Dieu, mais n'entretenons pas l'amour et l'amitié avec ces précieux nouveaux membres qui sont enthousiastes à l'idée de s'associer aux saints et de trouver leur place dans la maison de Dieu. Là encore, nos conseils peuvent servir à délibérer sur le bien-être spirituel et temporel de chaque membre, en apportant un soin particulier à chaque nouveau converti. Notre travail dans le conseil est d'aider nos membres à grandir dans leur amour pour notre Père Céleste et leur prochain. Si nous concentrons nos efforts sur cela, un par un, beaucoup plus de nos membres sentiront qu'ils ont trouvé un foyer dans l'Église, qu'ils ont trouvé la raison d'être de l'Évangile. Frères et sœurs, souvenons-nous que vous et moi ne sommes pas parfaits. Par conséquent, nos conseils ne seront pas parfaits non plus. Parfois, certains postes n'y seront pas pourvus. Parfois, ils comporteront une ou plusieurs personnes qui ne sont pas pleinement engagées dans l'œuvre ou qui sont distraites par les complications et le stress de la vie quotidienne. S'il vous plaît, n'abandonnez pas. Faites attention à ne pas idéaliser vos attentes sur la façon dont un conseil doit se dérouler. Une fois encore, si vous êtes concentré sur le pourquoi de l'Évangile, l'Esprit dirigera vos humbles efforts. Le président Hinckley a dit : Nous sommes ici pour assister notre Père Céleste dans son œuvre et sa gloire, qui sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Votre obligation est aussi sérieuse dans votre sphère de responsabilité que la mienne l'est dans ma propre sphère. Comme cette déclaration d'un prophète de Dieu porte à l'humilité. Si votre situation n'est pas idéale, rassurez-vous en sachant que le Seigneur vous soutiendra et améliorera vos efforts, sanctifiera vos décisions et vos actions, les perfectionnera grâce aux tendres miséricordes du Christ et consacrera votre œuvre à vous-même afin que votre œuvre soit pour le bien-être de votre âme et des âmes des gens que vous servez. Comme je l'ai déjà mentionné, cela fait peu de bien d'entendre la parole de Dieu si nous n'appliquons pas dans notre vie, ce que nous entendons. En conséquence, nous vous demandons de suivre les étapes suivantes sans hésiter et de continuer à le faire tout au long de votre service dans vos appels. Premièrement, individuellement et en conseil, examinez dans la prière les instructions que vous avez reçues. Pensez au pouvoir de la prêtrise au foyer, honorer les alliances divines, secourir les autres, se concentrer sur chaque individu, fortifier nos jeunes, édifier les mariages éternels et les familles en appliquant les principes de l'Évangile dans la vie quotidienne. En réfléchissant à ces sujets, vous trouverez la raison d'être de votre service et les « c'est pourquoi » qui en résultent dans vos responsabilités individuelles et dans les conseils. Au long de ce processus, ouvrez votre cœur à l'esprit et votre esprit à la volonté des cieux. Et je vous promets que l'esprit vous révélera ce qui compte le plus pour vous, votre famille et vos responsabilités dans l'Église. Deuxièmement, après la méditation et la discussion, déterminez plusieurs actions spécifiques que vous vous engagerez à mettre en œuvre. Gardez en tête que les actions individuelles et de chaque organisation, paroisse, pieux et famille, peuvent être différentes. Elles doivent correspondre aux circonstances et aux besoins. L'unité que nous recherchons n'implique pas nécessairement que nous fassions tous exactement la même chose au même moment, mais que nous écoutions et suivons toujours les directives du même Saint-Esprit. Troisièmement, une fois que vous aurez pris ces engagements, assurez-en le suivi dans vos responsabilités et appels à chacune de vos réunions en conseil. Faites-le, s'il vous plaît. Nous vous demandons aussi de parler de vos décisions et de vos efforts au Seigneur dans vos prières quotidiennes et de demander plus de lumière et de direction. Faites-lui confiance. Il vous connaît et il vous aime. Mes chers frères et sœurs, nous vous aimons et vous admirons. Nous prions pour vous. Nous savons que vous désirez obéir au murmure de l'Esprit, suivre le Sauveur et être ses mains dans cette grande œuvre. Je témoigne que cette œuvre est vraie, que vous êtes appelés de Dieu. Le Sauveur est à la tête de son Église et le président Monson est son prophète. Mes chers amis, je vous bénis et je prie pour que vous trouviez de la joie dans votre juste service. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Feel the sword, the mighty sword of
Notre cher Père Céleste, c'est plein de reconnaissance que nous venons à toi à la fin de cette excellente session de formation. Nous sommes reconnaissants, Père, de l'esprit que nous avons ressenti, des directives et de l'enseignement que nous avons reçu. Nous te remercions, Père, de nos prophètes bien-aimés et des conseils qu'ils nous donnent. Nous sommes reconnaissants, Père, de nos appels et des occasions que nous avons de vous servir, tes enfants et toi. Nous te demandons, Père, de nous bénir dans nos efforts pour mettre en pratique les principes que nous avons appris, pour que nous continuions d'aller de l'avant. Bénis-nous, Père, dans nos efforts pour nous aider les uns les autres et nous souvenir des gens qui sont dans le besoin pour les rapprocher de toi. Père, nous sommes très reconnaissants à ton Fils, notre Sauveur, pour son amour et son exemple. Fais que nous nous souvenions toujours de ses enseignements dans tout ce que nous faisons. Nous te prions de nous accorder ces bénédictions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.